Donc ce matin, nous allons revenir sur le livre des juges. Nous allons lire les passages qui nous concernent ce matin. Et je vous demande de suivre attentivement, parce que je vais vous poser deux questions par rapport à ce qu'on a lu. Pas difficile. Juste pour vous rendre actif et être dans le texte que nous allons considérer ce matin. Donc, Juges, chapitre 3, versets 12 à 30. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Verset 13. Eglon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Et il se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Et il dit, « Oh, roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tout ce qui était auprès de lui sortirent. Ehud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et Glan se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. Verset 22. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame. Car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Et Ehud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, sans doute, ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient de la sorte, Ehud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Seïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets de Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Deux questions. Qui est Eglon? Qui est Eglon? C'est pas difficile, c'est dans le texte. Roi de Moab. Retenez bien. Roi de Moab. Et qui est Ehud? Qui est Ehud?
Celui qui a tué le...
Voilà, c'est le libérateur. Le roi Aiglon, pour s'attaquer à Israël, avait demandé le soutien de qui? Des Moabites, c'est déjà le roi Aiglon, Moabite, mais il a demandé deux tribus, les Amalécites et les Ammonites. Juste une carte pour que vous voyez maintenant ces ennemis qui ont attaqué maintenant donc avec roi Aiglon Jéricho. Donc vous voyez ici, ça c'est le Jourdain. Voilà les Moabites. Et ça c'est la mer Morte. Donc vous voyez à l'est de la mer Morte, il y a les Moabites. Il a demandé l'aide de qui? L'aide des Amalécites. Ici au sud, ouest. Et l'aide des Ammonites. Aujourd'hui, on aurait pu nous focaliser juste, hein, il y a beaucoup de leçons pour nous, ne serait-ce que concernant l'historique de ses ennemis. Je réserverai ça pour dans 15 jours. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer à cette question. Comment Dieu va-t-il conduire son peuple vers la repentance? Et ce matin, nous allons considérer deux points. La situation d'Israël. Écoutez-moi bien, je veux vous montrer une situation si un peu ironique. La situation dans laquelle se trouve le peuple d'Israël. Et après, parler de libérateur. Comment s'appelle le libérateur? Léoud. Et non seulement nous allons parler de son portrait, mais nous allons parler aussi de la stratégie, comment il a tué le roi Aiglon. Sans tarder, nous allons parler donc de la situation d'Israël. Donc je voudrais souligner deux choses concernant la situation d'Israël. Plus précisément, comme je viens de parler, l'ironie de leur histoire. Pourquoi parler de l'ironie de l'histoire? Nous lisons au verset 14. Au verset 14, les enfants d'Israël ont été assujettis, combien d'années? 18 ans à Aiglon, roi de Moab. Pourquoi parler de l'ironie de l'histoire dans laquelle il se trouve 18 ans asservi par le roi de Moab? Faisons rapidement l'historique avant d'en arriver là. Dieu a utilisé Moïse, n'est-ce pas, pour délivrer Israël de l'esclavage d'Égypte. Et il les a conduits pendant 40 ans dans le désert. Et puis, qui a pris la relève, le successeur de Moïse? Josué. Josué donc a amené les Israélites où? À Canaan, la terre promise. Et Josué était leur chef pendant combien d'années? 40 ans. 40 ans. Donc, imaginez bien, délivré de l'esclavage d'Égypte, maintenant sous Josué, on rentre à Canaan, la terre promise, n'est-ce pas? Et cette terre promise a été promise par Dieu depuis Abraham et ses descendants. Et nous allons voir maintenant en quoi consiste l'ironie. L'ironie, c'est que le peuple a été libéré d'une oppression de 400 ans environ en Égypte et se retrouve maintenant dans le pays de la promesse, n'est-ce pas? Et pourtant, donc, dans la pays de la promesse, Canaan, ils sont censés vivre comment? Libre. Et qu'est-ce que nous apprenons? Et ils sont sous esclavage. Combien d'années? 18 ans sous le roi de Moab. Ça, c'est l'ironie. Quelqu'un qui a été libéré, un peuple libéré de l'esclavage pendant 400 ans, amené dans la terre promise pour vivre libre, et se retrouve à nouveau sous l'esclavage, et je dirais pire que ce qui était en Égypte, sous l'oppression de Moab pendant 18 ans qui domine sur Israël. Donc, ici, l'ironie de voir son peuple qui doit vivre libre en Canaan et pourtant se retrouve à nouveau dans l'esclavage, pire qu'auparavant en Égypte. Ça, c'est l'ironie. Mais il y a une leçon pour nous ici. Écoutez bien, et je m'adresse surtout donc, aux chrétiens. Parce qu'il y a une leçon pour nous ici. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, spirituellement vivant, qui est né par l'Esprit de Dieu, qui s'est repenti de leurs péchés, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, qui a reçu le pardon de Dieu, et enfant de Dieu. Et pourtant, on peut se retrouver en tant qu'enfant de Dieu, souvent à l'église, tous les dimanches, à toutes les réunions. Et même on peut se forger une carapace de quelqu'un de souriant, que tout va bien. Mais à l'intérieur, on vit une défaite terrible. Comme ce peuple d'Israël, on peut vivre dans l'oppression, et je dirais souvent pire que ce que l'on a connu alors qu'on n'était même pas chrétien. Quel est le problème? À cause du compromis avec le péché, à cause de l'incrédulité, à cause du refus de pardonner. Ça peut être un exemple. Et permettez-moi de vous dire, j'étais jeune chrétien et ça m'a choqué énormément. Il s'est passé dans l'église quelque chose de pas glorieux. À l'époque, il y a 30 ans, plus que 30 ans, le trésorier de notre assemblée a volé dans la caisse de l'église. Et le pasteur n'était pas content. Le pasteur était mon grand-père. Ça lui affectait tellement. Et le monsieur, confronté à lui-même avec le pasteur, a reconnu sa faute. Il a été conseillé de confesser sa faute devant l'église. Il l'a fait. Et mon grand-père, en tant que pasteur, ne lui a jamais pardonné. Et vous savez, la chose horrible qui m'est restée dans l'esprit, jeune chrétien, j'ai respecté beaucoup mon grand-père, c'est que ce monsieur trésorier, mon grand-père allait mourir dans ses vieux âges. Il est venu à la maison, pleurant, suppliant, à genoux, que mon grand-père lui pardonne. Il ne l'a jamais fait. Il est parti. Vous voyez, on peut être libéré de l'esclavage. On a été pardonné, comme Paul dit, comme Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Et il l'a pas fait. C'est ça dont je parle ici. On peut être chrétien, mais on est toujours sous l'esclavage de beaucoup de choses, de la rancœur, des relations non jamais réglées. Des refus de pardon, l'orgueil, plein de choses. Et ça doit nous parler, parce que il n'y a rien de pire que d'être convaincu de la vérité de l'Évangile, je dirais, et de ne pas voir cette vérité incarnée dans les réalités de notre vie. Parce que l'Évangile, non seulement touche le péché, la source, il offre le péché, mais l'Évangile change aussi les fruits de notre vie à cause du péché. Il a cette efficacité. Et en parlant du pardon pour mon grand-père, il ne l'a pas fait. Et pourtant, il aurait dû le faire. Paul dit ceci en Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est ça, la libération. Dieu l'a effectuée pour nous, mais nous devrions nous l'approprier dans notre situation, dans notre vécu, dans notre contexte, pour arriver à la sainteté. Deuxième chose, où je dirais qu'il parle de l'ironie de l'histoire de ce peuple. Regardez au verset 13. « Eglon bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. » Les villes des palmiers, c'est la ville de Jéricho. Oui, l'ironie. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand nous avons parlé du premier juge, Othniel, on n'a jamais vu dans le récit que le roi de Mésopotamie, Kushan-Rishtaïm, rappelez-vous, s'établit dans telle ou telle ville. On n'a jamais vu ça. Mais ici, Eglon, roi de Moab, s'établit en Israël, à Jéricho, la ville de palmiers. Et parce qu'ils nous lisons, ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et notre histoire que nous connaissons depuis l'enfance, dès que l'on parle de Jéricho, qu'est-ce que ça nous rappelle? Eh oui. Eh oui, la défaite, c'est la première conquête de la ville de Jéricho, les murs tombés. Hein, ils ont passé au fil de l'épée, tout, sauf qui? Rahab et sa famille. Donc ça rappelle la conquête de Jéricho. Et là maintenant, comble de l'histoire, dans la ville de Jéricho, ben, c'est le roi de Moab qui s'installe. Après 70 ans où Josué a conquis Jéricho. Vous voyez? Donc c'était la même ville que Josué avait parcouru et vaincu 70 ans plus tôt. Maintenant, il est contrôlé par les Moabites. Alors, Jéricho était la toute première ville où Israël a dominé sur Canaan. Donc l'ironie est que Jéricho est devenue la ville choisie pour que Moab maintenant domine sur Israël. Et donc voilà, Eglon s'établit dans cette ville 18 ans. Et là, ça m'a interpellé. Il a fallu 18 ans au peuple pour arriver au bout de la misère, reconnaître leur misère. 18 ans, c'est beaucoup, non? Il a fallu 18 ans pour qu'ils se lèvent les yeux et crient pour demander délivrance. Ne jetons pas la pierre au peuple d'Israël, mais il y a une application pour nous ici. C'est que la durée de l'oppression de 18 ans souligne l'endurcissement d'Israël qui attend 18 ans avant de se tourner vers l'Éternel. C'est dire à quel point on peut parfois cohabiter avec le mal sans être inquiété. Et c'est manifestement le cas en Israël ici. Probablement, il fallait que l'asservissement du roi de Moab pèse de plus en plus lourdement sur Israël. J'attire votre attention, et c'est toujours l'enseignement qu'on a dispensé dans cette assemblée, ce que je ne dis pas que chaque problème que nous rencontrons dans notre vie est un châtiment direct de Dieu à cause d'un péché que nous avons commis. Ça peut l'être quand nous connaissons que nous avons vraiment péché, mais ce n'est pas toujours le cas. On a enseigné ça plusieurs fois, l'exemple qui illustre très bien Job. Ses amis l'accusent parce qu'il y a dans ta vie quelque chose qui n'est pas en règle, et voilà, Dieu te châtie. Non, ce n'est pas toujours vrai. Regardez, l'aveugle né, on se demandait, mais qui a péché, lui ou ses parents? Pourquoi il est né aveugle? Jésus dit non, c'est pas qu'il a péché ni ses parents, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée à travers cette situation. Donc vous voyez, c'est important de retenir cela. Mais ce que je veux que nous voyons, que notre relation avec Dieu affecte toujours les circonstances de notre vie à cause de nos choix. Je répète, il faut que nous voyons que la relation avec Dieu affecte toujours les circonstances de notre vie à cause des choix que l'on fait. Donc la question ici, est-ce que l'on veut marcher avec ce que Dieu nous dit dans sa parole ou marcher en excluant Dieu de notre équation sans le considérer ni ce qu'il nous dit dans sa parole? Et oui, ça c'est la question qui se pose. Mais deuxième chose que je vois, une application ici, l'aiglon pèse de plus en plus lourdement dans l'oppression vis-à-vis du peuple. C'est ce que nous lisons. Et dans cela, on voit la grâce de Dieu, hein, qui finalement permet l'épreuve de peser de plus en plus lourdement pour châtier son peuple, pour qu'ils se rendent compte de leur état de misère dans le péché, et ils crient pour avoir la délivrance. Et vous savez, quand nous nous égarons et que nous savons que nous avons commis des péchés et nous ne voulons pas le régler, Dieu par amour nous châtie. Et j'aime bien utiliser le mot qui est dans Hébreu 12, verset 5 à 11. Il ne dit pas que Dieu nous punit. Nous sommes déjà punis en Jésus-Christ qui a pris nos péchés sur lui et il a payé les conséquences. les enfants de Dieu ne sont plus punis. Mais ils sont châtiés. Châtiés veut dire corrigés, disciplinés. Et M. Bixby rappelait toujours, rappelez-vous, c'est comme un volant, il disait, ah, si le volant, je lâche un peu, il va tirer la voiture dans ce sens. Corriger, c'est redresser pour qu'il soit sur le bon chemin. Ça, c'est le sens ici. Et donc, Dieu a permis que le roi de Moab soit devenu de plus en plus oppressant sur le peuple pour les amener à crier vers Dieu. Et nous lisons dans Hébreux 12, verset 5 à 11, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ici, on ne parle pas de punition, correction ou discipline. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il va dire au verset 10, nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le châtiment n'est jamais pour détruire l'enfant de Dieu. Le châtiment est fait pour ramener l'enfant de Dieu dans la voie de la justice comme Dieu le voulait. Satan inflige, si Dieu le permet, des choses aux enfants de Dieu dans l'envie de le détruire, mais jamais Dieu. Dieu, c'est dans l'envie de lui remettre sur la bonne voie, et c'est par amour qu'il le fait. Donc, si nous prenons simplement Dieu et sa parole au sérieux dès le début, nous nous épargnerons beaucoup de chagrin. Et je rappelle encore M. Bixby qui disait, quand il conseillait les jeunes, si tu ne veux pas avoir des soucis, fais ce qui est correct. Ça éliminera beaucoup de choses qui auraient pu être nuisibles pour ta vie. Fais ce qui est selon la volonté de Dieu correct. Et c'est ce que nous allons faire, nous devons faire en suivant sa parole. Maintenant, nous avons vu donc la situation d'Israël, et nous allons maintenant voir le portrait du libérateur. Nous lisons au verset 12, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Je vous ramène encore en comparant Othniel et Ehud. Pour le récit, avec le premier juge Othniel, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et comme le récit précédent, le Seigneur suscite alors un roi ennemi. Il s'agit ici d'Eglon, comme nous avons bien spécifié. Son nom signifie jeune taureau, roi de Moab, et qui rallie sa cause avec les Ammonites et les Amalécites, et comme nous avons vu, ces trois pays et peuples étant situés au sud et au sud-est de Canaan, au-delà du fleuve de Jourdain. Regardons maintenant le portrait d'Ehud. Donc, imaginez-vous à la place du peuple. 18 ans d'oppression des Moabites qui ont fait des ravages sur les Israélites. Ils ont perdu leur terre, leur liberté. Ils doivent payer, non pas un cadeau, le texte il est mal traduit, c'est pas un cadeau qu'ils donnaient au roi Eglon. C'est un tribut, c'est des impôts. Et ça, année par année par année, pendant 8 ans. Il les a finalement condamnés de leurs péchés et ils ont recommencé à prendre Dieu au sérieux. Ils ont commencé à réaliser qu'ils avaient vraiment besoin de Dieu de tout temps. Alors, ils ont crié au Seigneur pour un libérateur, tout comme un père aimant discipline ses enfants et les entend aussi quand ils pleurent. Et le Seigneur a entendu leur cri. Vous voyez verset 15 ici, sur le PowerPoint. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Donc vous voyez, dans cette petite phrase, il y a beaucoup de renseignements. Et ce n'est pas anodin, l'Esprit de Dieu a laissé ça dans le texte à l'original pour nous apprendre quelque chose sur cet homme que Dieu a choisi. D'abord, Ehud, c'est fils de Guéra. Vous pouvez rechercher dans le dictionnaire biblique, Guéra, c'est la plus petite unité de poids à l'époque. Donc, il faut voir ici un symbole qui signifie qu'aux yeux du monde, il était trouvé bien léger. C'est la plus petite unité de poids. Aux yeux du monde, il était trouvé bien léger face à la puissance et la corpulence du Aiglon, qui était dit, c'est un homme très gras, costaud. Nous lisons verset 17, il offrit le présent à Aiglon rose noir. Or, Aiglon était un homme très gras. Mais ce qu'il faut saisir dans l'esprit, c'est que celui qui a trouvé léger aux yeux du monde n'est pas forcément trouvé léger aux yeux de Dieu. Car nous savons que Dieu ne regarde pas l'apparence. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est le premier enseignement. Guéra. Il est benjamite. Quelqu'un sait ce que signifie Benjamin, le nom? Qui? Le signification du nom. Fils de ma droite. Fils de ma droite. Et ici, vous allez voir, c'est quelque chose de un peu ironique aussi. Parce qu'il n'est pas droitier, il est gaucher. Et à l'époque, être gaucher, c'est mal vu, hein. Mal vu, hein. Et tout le monde travaillait avec la main droite. Et donc, ici, le gaucher était souvent méprisé ou rejeté à cette époque. Et donc, c'est, au lieu de dire que c'est une qualité, c'est plutôt un handicap, quelque chose qui vous limite, qui est mal vu. Et donc, Dieu va choisir quelqu'un qui, aux yeux de la société, est différent, parce que tout le monde est droitier, il travaille donc avec la main droite, et il va choisir quelqu'un à qui on n'aurait jamais pensé que lui est le candidat potentiel pour pouvoir aller rencontrer et tuer le roi de Moab. Vous voyez le contraste à cause de son handicap. Donc, or, il savait que son handicap visible dans sa main droite et sa capacité cachée avec sa main gauche ont fourni la stratégie pour libérer Israël des Moabites. Il y a une leçon pour nous ici aussi. On peut être différent des autres. Et plus je lis le livre de Juges, plus je suis frappé que Dieu, dans la circonstance de 430 ans de période des juges, a utilisé des hommes, des femmes, et souvent des personnes, je ne dis pas forcément un handicap, mais qui n'a pas tout le potentiel pour être celui qui est un libérateur. Je vous cite juste Jephté. Jephté, c'est qui? C'est un fils, on appelle ça un bâtard, parce qu'il est né de la concubine de son père, il était rejeté par ses demi-frères. Vous dites, ok. Mais Jephté, aussi, c'est qui? C'est un chef de gang. Eh oui. Il s'est arrondé les jeunes autour de lui et c'est un voyou. Quand vous imaginez ça, Dieu peut choisir un tel homme. Ça me frappe. Je peux vous dire, par exemple, pour Gédéon. Qui est Gédéon? Gédéon, c'était un homme craintif, un peureux. Je ne dirais pas jusqu'à être un lâche. Alors, en Juge 6,15, nous lisons, quand il est appelé à aller contre les Ammonites, il dit, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé et moi, je suis le plus jeune de la maison d'Israël. Surtout pas moi. Vous voyez? Et peut-être vous vous dites aussi aujourd'hui, moi je n'ai aucun talent, je n'ai aucun don, rien. Dieu veut me changer pour faire quelque chose cette tâche? Non, surtout pas moi, Dieu, ici il y a mieux que moi. Et oui, vous savez, je vous cite encore quelques exemples où des gens qui se croyaient incapables de faire la tâche,
Et pourtant, Dieu les a choisis malgré eux. Moïse. Est-ce que vous vous rappelez de Moïse quand Dieu lui demande d'aller rencontrer Pharaon? Qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, j'ai un homme qui n'a pas la parole facile. Oui ou non? Eh oui. Et pourtant, Dieu a choisi Moïse pour aller affronter la Pharaon pour pouvoir délivrer son peuple. Est-ce que vous vous rappelez de David? David, il était un jeune berger. Mais un jeune berger affrontait un militaire hyper entraîné, Goliath. Croyez-vous que c'est normal, ça? C'est défaite assurée. Avec une petite fronde? C'est pas possible. Et Dieu a choisi David. Avec le peu qu'il soit, pas armé, et avec le peu ce qu'il avait. Est-ce que vous vous rappelez de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, malade des yeux, beaucoup de commentateurs le pensent, c'était chaste dans la chair comme il parlait. Et combien l'apôtre Paul a utilisé par Dieu pour évangéliser du monde entier, et même jusqu'en Europe. Donc nous sommes le fruit de l'évangile qui a été propagé, et grâce au ministère de l'apôtre Paul. Vous voyez? Donc ce matin, si vous croyez avoir un handicap, je mets entre guillemets, des prétextes pour dire que Dieu ne peut pas m'utiliser, détrompez-vous. Regardez ces quelques hommes que je vous ai décrits, comment ils étaient. Ils n'étaient pas adéquats, mais Dieu les a choisis. Et c'est Dieu qui œuvrait à travers leur vie pour accomplir une tâche. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui acceptent ce matin d'être dans la trempe de ces personnes-là, avec peu de choses, avec des limites, des limitations, mais qui veut être utile pour Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche hein, dans son assemblée, dans le peuple de Dieu. Il y a un principe pour nous dans 1 Corinthiens 1, chapitre 27, c'est que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ça, c'est le portrait de Ehud. Maintenant, regardons vite sa stratégie. Regardons du verset 15 à verset 22. Et quand nous avons lu l'histoire avec Othniel, là, c'était pas si détaillé comme ce que nous avons avec l'histoire d'Ehud pour qu'il arrive jusqu'au assassiner le roi Eglon. Verset 15, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamite qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab, et Ehud se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Eglon, roi de Moab. Or Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté, et il revient lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Il dit, « Oh, roi, j'ai quelque chose de très secret à te dire. » Le roi dit « Silence !» et tout ce qui était auprès de lui sortir. Ehud l'aborda comme il était assis dans sa chambre d'été. Il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Et Eglon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. Et la poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame car il ne retira plus du ventre l'épée qui sortit par derrière. Vous voyez le récit de la délivrance du peuple ici par Ehud est beaucoup plus détaillé que celui de Othniel. Je dirais qu'il est raconté avec un réalisme qui nous montre la misère de ce roi qui ne peut même pas se déplacer, gros, gras, et son nom signifie veau engraissé. Oui. Il est naïf, c'est un peu. Quand vous lisez, c'est vraiment tourné au ridicule. Vous voyez? Il fait ses besoins. et pensant qu'il est en train de faire ses besoins, mais en fin de compte, il était déjà poignardé et mort. Donc là, nous voyons avec réalisme la misère d'un roi, mais aussi la préparation minutieuse de son assassinat par Ehud. Vous voyez, du verset 15 jusqu'à verset 30, il est rempli de détails qui portaient le centre du récit sur Ehud, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste, je dirais qu'on peut le jouer dans une pièce de théâtre, n'est-ce pas? Cette histoire, les détails sont là. Il faut un scénariste qui mette ça en scène. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Maintenant donc, la stratégie. Quelle est l'arme utilisée? Une épée, c'est une sabre, à peu près 50 cm, qui peut être cachée sous un vêtement. Et on dit la saigner sous ses vêtements au côté droit. Ah! Pourquoi au côté droit? On avait dit qu'il y a eu des gauchers. Pour manier une arme, donc on doit le poser ici. Et à l'époque, tous les soldats étaient droitiers. Ça veut dire l'arme doit être à gauche. Et donc, imaginez qu'il rentre dans l'arène du roi. S'il y a les palpations, qu'est-ce qui lui arrive? On va tout de suite revenir de ce côté-là, parce qu'ils étaient droitiers. Mais Dieu a permis qu'il ait gaucher pour qu'on ignore qu'il y avait l'arme à côté droite. Vous imaginez? Ce qui était un handicap, Dieu se sert pour qu'il acquiert la victoire à travers cet handicap. C'est incroyable. Donc ici, il a pu dissimuler une arme sur son côté droit, là où les gardes du roi ne se seraient pas attendus à trouver une menace. Donc il passe inaperçu. Donc la plupart des guerriers, comme je vous ai dit, du monde antique, étaient entraînés à manier leur épée de la main droite. Par conséquent, ils ne s'attendaient pas à trouver une arme sur le côté gauche. Donc les gardes n'ont probablement même jamais fouillé son côté droit. Ça c'est la première chose, l'arme. Le don. Je vous ai dit, la traduction, ce n'est pas tout à fait un don, c'est des impôts. Quand vous êtes dominé, vous devrez rendre des impôts. Et là, il a fallu plusieurs hommes, parce que c'est lourd, n'est-ce pas? Qui doit accompagner Ehud. Et donc, les enfants d'Israël envoyèrent par lui, ça veut dire par Ehud, un présent à Eglon, roi de Moab. Comme on dit ici, c'est un cadeau empoisonné. N'est-ce pas? Et regardez la finesse de la stratégie. Il ne s'agissait pas de susciter une armée. Voyez ce qui est différent avec Othniel quand vous comparez les choses. Ici, Ehud, pour lui, il ne s'agit donc pas de susciter une armée et d'attaquer la ville de Jéricho avec l'armée, mais il s'agissait plutôt d'apaiser le roi d'Eglon, lui mettre en confiance et d'utiliser des moyens de ruse pour le tuer. Donc, et là, donc, avec quelques hommes, mais il n'y va pas y avoir une armée. C'est ce que nous lisons. La tactique. Pour être seul face au roi, verset 18, lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, l'impôt, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Donc, Ehud arrive à faire renvoyer tous les hommes avec lui, et puis faisant semblant de partir, il arrive à Gilgal, à peu près 7 km de Jéricho. Et là, il voit, c'est traduit carrière. Le mot hébreu traduit par carrière signifie tout simplement des images taillées, c'est des idoles. Vous pouvez vérifier ça dans Deutéronome 7.5, ce terme. Et donc, quand il arrive à Gilgal, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'était passé à Gilgal au temps de Josué? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a un événement spectaculaire. Il fallait marquer le coup pour s'en souvenir. Qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple d'Israël traversait le Jourdain à sec, non? Et qu'est-ce qu'avait fait Josué? Il a ramassé 12 pierres dans le Jourdain pour chaque tribu. Et il a amoncelé ça après que le peuple a traversé, pour que ça soit en mémoire si les générations d'après demandent, mais qu'est-ce que c'est que ces pierres, monticules de pierres? C'est en souvenir que
le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à sec, comme il a traversé avant la mer Rouge, non? Et oui. Et donc imaginez, Ehud arrivé à Gilgal, il voit des images taillées, des idoles, ça lui met en colère, parce qu'il se rappelle de l'histoire que non, ici, Dieu est intervenu avec son peuple, lui a donné de pouvoir marcher à sec sur ce Jourdain, et non, ça a donné la détermination, il est reparti pour être déterminé à éliminer le roi Ehud. Parce que Ehud n'était pas un idolâtre, mais un fidèle disciple de l'Éternel. Regardez la ruse. Je le trouve très rusé dans le langage. Il éveille la curiosité du roi. Vous voyez, verset 19. « Oh, roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Wow. » Un roi qui reçoit un message de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait alors semblant d'avoir une parole confidentielle à communiquer au roi. Il lui flatte d'en être le destinataire exclusif. C'est pour toi, ô roi, qui vient de Dieu. Et ce qui incite Eglon à également renvoyer ses hommes. Donc Eglon dit, les gardes de corps, vous sortez. Vous voyez, il était mis en confiance. Objectif atteint. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Ehud, seul à seul avec Eglon, et en préparant bien son geste, peut le tuer en toute tranquillité. Et le détail de cet assassinat laisse songeur, n'est-ce pas? Tellement il était cruel. Je ne veux pas ouvrir une parenthèse ici au sujet de la violence. C'est ça un autre sujet. Est-ce que la Bible, le Dieu de la Bible est violent? C'est une question qui se pose, hein. Aujourd'hui, on n'en parle pas de ça. La Bible en parle beaucoup de ces choses, mais ce n'est pas notre sujet. Tout simplement, après cela, Ehud arrive à sortir par une porte dérobée, sans être vu par les gardes-corps du roi. Et je vous laisse imaginer les détails. Hein. Ce n'est pas drôle. C'est humiliant. Et vraiment, c'est humoristique, humiliante, la façon comment il est décrit. Et l'esprit a saisi ainsi. Puis, il est revenu avec sa troupe, il sonne la trompette pour convoquer les troupes des Israélites pour attaquer les Moabites. Parce que leur chef, le roi, étant mort, versets 27 à 28. Et vous voyez, quelle est la conséquence de cette victoire? La conséquence de cette victoire, c'est ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait dit au départ sur la situation d'Israël, l'ironie? Ils étaient libérés d'un esclavage en Égypte pour vivre libre dans la terre promise, mais soumis sous un autre esclavage sous le roi Eglon. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Renversement de la situation. C'est Moab maintenant qui est sous la domination d'Israël. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Ce qu'il fait pour son peuple. Regardez donc, Israël devait subir la domination de Moab. Le territoire conquis sur Moab s'est donc élargi pour Israël dans le sud de Canaan. Et pourtant, c'est lui qui, maintenant, domine sur Moab. C'est le renversement de la situation. Autre conséquence aussi, c'est que le pays fut en paix pendant 80 ans. Et donc, vous voyez, cette victoire, l'impact de cette victoire sur Moab est démontré par ces 80 ans de repos. Il y a une leçon pour nous ici, et je vais m'arrêter là. Il y a une leçon pour nous ici, d'abord sur Ehud. On voit le courage et la volonté d'Ehud qui servent d'exemple pour stimuler et motiver tous les Israélites. Ehud était ainsi à l'origine d'une grande victoire collective. Vous voyez, dès que le peuple a pris la mort d'Eglon, tous suivirent Ehud et barrèrent la route aux 10 000 hommes. Et le texte dit bien, ce n'est pas de 10 000 hommes comme ça, mais de 10 000 hommes robustes et vaillants, c'est-à-dire qui composaient l'armée du roi de Moab. La stratégie d'Éhude pour approcher et tuer Eglon était minutieusement élaborée, mais je dirais sans l'aide de Dieu, n'aurait jamais pu réussir. Et je dirais mieux, Éhude aurait laissé sa vie. Il prenait un grand risque. La chose qui me frappait quand je lis ce texte à plusieurs reprises, du verset 12 jusqu'à verset 30, le personnage central, c'était Éhude, évidemment, avec l'ennemi Eglon. Et on dirait presque que Dieu est absent de la situation. Ne nous trompons pas. Dieu est bien présent dès les débuts. Vous voyez, verset 12. Dès les débuts, il est présent. L'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab. C'est l'Éternel même qui donne la force, donne les capacités à l'ennemi pour faire ce qu'il a décidé, pour faire tourner son peuple vers lui. Vous voyez, il est présent. Quel que soit le ruse du Éhude, c'est Dieu qui mène les choses. Regardez. Puis il suscita Éhude. Verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhude, fils de Guéra, Benjamite. Non seulement il fortifia l'ennemi, il suscite un libérateur, mais à la fin même, regardez le verset 28. Éhude est conscient que c'est le Seigneur qui a livré les Moabites entre leurs mains. Vous voyez, juste 3:28, il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Chers frères et sœurs, ce n'est pas une histoire très loin de nous. Paul, dans 1 Corinthiens 10, parle qu'il y a des histoires dans l'Ancien Testament et que ces histoires peuvent nous servir d'instruction pour nous qui arrivent au dernier temps. Dans nos luttes aussi contre le péché, dans nos luttes pour la sainteté, et même, je dirais, dans nos épreuves, n'oubliez jamais que Dieu combat avec nous. Il est pour nous. Ça veut dire de notre côté, comme il a été du côté de Othniel et d'Éhude, quand ils se sont repentis avec le peuple pour revenir à lui. Retenez qu'aucune tentation, le mot est mal traduit, mais il a le sens de épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Comme pour Éhude, comme pour Othniel, comme pour le peuple. Dans nos luttes, Dieu est fidèle. Il est avec nous. C'est lui qui dirige la circonstance. Même sans l'apparence, on met sur scène la stratégie d'Éhude, mais derrière tout ça, c'est Dieu qui a permis. Et retenez cela dans vos vies cette semaine. Quand il y a des luttes, n'oubliez jamais Dieu est de notre côté. Il veut la victoire pour nous face au péché. Il veut que nous vivions dans la sainteté, dans la victoire en Jésus-Christ. Amen.